Planisphère, l'émission géopolitique de Radio Notre-Dame, Hugo Billard.
Bonjour à tous. Je profite de cette première émission de l'année pour vous souhaiter à tous une année apaisante, apaisée, faite d'une multitude de petits bonheurs quotidiens et de découvertes qui mettent les yeux, les papilles et le cœur en joie. Aujourd'hui, dans Planisphère, nous n'allons pas couvrir les difficultés d'un voile pudique. Nous n'allons pas non plus parler des gilets jaunes, nous n'allons pas parler d'un climat révolutionnaire, nous n'allons pas parler de frustration politique. Mais nous allons parler d'un espace géographique qui semble concentrer dans l'imaginaire, comme sans doute en pratique, une partie de tout cela, qui est la France périurbaine. Bonjour Jean-Marc Stébé.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur à l'Université de Lorraine, spécialiste de l'habitat social, des utopies urbaines et des fragmentations sociales et territoriales. Et vos recherches ont fait de fait de vous un géographe, un sociologue qui s'occupe de géographie. Et vous venez de publier, avec le sociologue Hervé Marchal, un ouvrage qui démontre tous les jours son actualité géographique et politique. Il s'appelle « La France périurbaine » et il a rejoint l'historique collection « Que sais-je » des presses universitaires de France. Vous aviez déjà donné à cette collection un numéro sur le logement social, un autre sur la crise des banlieues. Les territoires périurbains sont un prolongement finalement de ces travaux sociaux et politiques. Alors Jean-Marc Stébé, avant qu'on arrive sur le fond, qu'est-ce que c'est que le périurbain ?
Alors, le périurbain, pendant très longtemps, juste après la Seconde Guerre mondiale, nous avions les villes d'un côté et le rural de l'autre. Au début des années 60, en 1962, on a introduit les zones de peuplement industriel et urbain, qui étaient des zones sous influence de la ville. Et puis, au début...
Vous aviez une usine, vous aviez une ferme, on organisait des villes un petit peu plus grosses tout autour avec des logements sociaux.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, on s'est aperçu qu'à la fin des années 90, il y avait énormément de populations qui étaient sous influence de la ville. Donc, on a revu un peu le découpage. L'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, a revu le découpage et on a aujourd'hui, d'un côté, on a des pôles urbains avec des villes relativement denses et puis de l'autre côté, on a des zones périurbaines. Et les zones périurbaines, il y a 40% de la population active qui travaille dans ces aires urbaines, disons. Les aires urbaines, c'est l'ensemble de ces pôles urbains, plus de ces zones périurbaines. Et puis à côté, nous avons toujours le rural.
Est-ce que les zones périurbaines, c'est ce qu'on appelle les villes moyennes, ou est-ce que c'est encore autre chose ?
Alors non, les zones périurbaines, c'est constitué de villages, de bourgs et de villes.
Et alors, c'est le lien avec la grande métropole qui, en fait, crée le sentiment périurbain.
Et notamment le lien économique, c'est-à-dire les actifs qui travaillent dans cette aire urbaine qui est constituée de ce pôle urbain avec les zones périurbaines. Disons plus globalement, pour que l'auditeur comprenne bien, on a la ville. Généralement, c'est une ville-mère importante.
Bordeaux, Lyon, Marseille, des très grandes métropoles régionales.
Par exemple,
ou Paris.
Et autour, on a la banlieue, c'est-à-dire toutes les communes qui sont denses et qui sont rattachées géographiquement à cette ville, comme pour Paris, Montreuil, Levallois-Perret, etc.
Donc, il y a continuité du bâti urbain, comme disait le géographe, c'est-à-dire continuité du paysage.
Voilà. Et puis, au-delà de ces villes et de cette banlieue, nous avons les zones périurbaines. Et voilà, et donc là, nous avons, là, on n'a pas forcément la continuité en termes de paysage urbain. Il peut y avoir des no man's land agricoles, des forêts qui séparent les villes, des bourgs, mais qui sont dans cette zone périurbaine.
Et le point commun, c'est l'activité économique en lien avec la ville centrale, c'est ça ?
Donc la ville centrale, avec la banlieue et aussi dans la zone périurbaine. Il faut qu'il y ait 40%, c'est-à-dire qu'il y ait un mouvement, qui soit vers le centre et non pas vers l'extérieur, c'est-à-dire un mouvement centripète et non pas un mouvement centrifuge. C'est-à-dire que des actifs sortent de cette zone-là.
Donc, ça fait quel pourcentage de la population qui habite dans les zones périurbaines, vous l'avez dit ?
Dans la France métropolitaine, sur 63 millions à peu près, nous avons 15,4 millions d'habitants qui habitent dans ces zones périurbaines, ce qui représente à peu près 25% de la population métropolitaine.
Je vais vous poser une question d'actualité immédiate, mais au moment de la création du mouvement des Gilets jaunes, Rhône fin octobre et en novembre 2018, vous aviez pour le coup une partie significative de ces populations des zones périurbaines qui ont organisé ce mouvement de résistance face aux nouvelles taxations, etc. Est-ce qu'on peut assimiler la naissance de ce mouvement des Gilets jaunes à un mouvement de refus par le périurbain de l'imposition par la ville centrale d'une taxation nouvelle ? Est-ce qu'on est dans une forme d'opposition périurbain-urbanisation classique ou est-ce qu'on est dans autre chose ?
On n'est pas dans une opposition périurbain-centralité urbaine parce que il n'y a pas forcément que des gilets jaunes. Déjà, les gilets jaunes ne font pas partie du périurbain. Il y avait aussi des ruraux dans ce mouvement. Disons que c'est un peu trop binaire, disons, que cette opposition-centralité. Mais il n'empêche. Il n'en demeure pas moins que 90% des habitants du périurbain possèdent une voiture. En revanche, dans la centralité urbaine, dans les pôles urbains dont on parlait tout à l'heure, il n'y en a que 60%. Donc on voit bien que les
périurbains... Le prix de l'essence est un enjeu dans le périurbain qui
n'existe pas. Il y a un impact plus important des taxes sur les produits pétroliers sur les périurbains. Mais c'est évident.
Alors, il y a autre chose aussi, en dehors de la voiture, c'est la possession de la maison individuelle. Pour le coup, vous qui avez beaucoup travaillé à la fois et sur l'habitat social et sur cette dimension individuelle de la maison comme étant une élévation sociale, est-ce qu'il n'y a pas dans tous ces mouvements d'opposition, parce que les Gilets jaunes sont le dernier avatar, mais dans tous ces mouvements d'opposition à un État central taxeur, d'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas aussi une défense de sa propriété comme étant l'expression d'un individualisme enfin assumé ?
Oui, alors on a surtout critiqué les périurbains comme dans les années 60, comme des petits bourgeois individuels, etc., qui souhaitent avoir un pavillon individuel éloigné de la ville. C'est pas tout à fait cela aussi. On a des personnes qui sont tout à fait responsables. On a des mouvements, alternatifs aussi dans les zones périurbaines. On a, disons que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement pluriel. On le voit bien, il va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Quand on regarde, ce matin, il y avait un article dans Le Monde sur les revendications et le Monde essayait de classer en fonction des derniers personnes qui se sont présentées aux élections et regardait un petit peu la concordance des revendications avec les programmes politiques. On voit bien que c'est un mélange qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Eh bien, le périurbain, c'est cela. C'est un mélange de populations, de catégories sociales, petite bourgeoisie individuelle, classe moyenne et moyenne supérieure, mais on a aussi des catégories défavorisées. Les catégories défavorisées se retrouvent plus profondément dans les zones éloignées du périurbain.
Donc parce que dans le rural que vous avez, les pauvres.
Plus. Nous, dans notre ouvrage, on a essayé de caractériser cette zone qui se trouve à l'orée du périurbain, proche du rural, on l'a appelé le préurbain, l'urbain dans le pré. C'est-à-dire que là, nous avons une population qui est relativement paupérisée, et de plus, comme on essaie de diffuser de plus en plus le logement social, les bailleurs sociaux essaient de ne plus concentrer les logements sociaux dans les pôles urbains et dans la banlieue, on essaie de le diffuser dans les zones périurbaines. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de logements sociaux dans ces zones préurbaines, et donc on voit là cette zone qui se paupérise de plus en plus.
Est-ce qu'il faut voir dans parce que la question de la pauvreté, pour le coup, de ces zones pré-urbaines, comme vous dites, elle tient aussi à l'éloignement, à la nécessité de dépenses supplémentaires. En fait, on est dans la région parisienne au bout des lignes de RER. Est dans les espaces, dans les régions, dans les bouts de lignes de TER ou dans des TER qui sont assez peu fréquemment... qui s'arrête assez peu fréquemment. Donc on est dans des zones qui sont extrêmement dépendantes d'une circulation automobile. Mais au-delà, quel rapport est-ce qu'il peut y avoir avec la transition écologique ? Quel rapport il peut y avoir avec la dimension environnementale ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est à l'aune de l'essentiel des politiques publiques. Autant dans les années 50-60, c'était la construction, il fallait un habitat social, vous en êtes un spécialiste, de manière très importante. Autant aujourd'hui, la dimension environnementale, la dimension de transition écologique, elle est un des nœuds articulant toutes les politiques publiques. Donc est-ce que derrière les problèmes de mobilité se pose aussi la question de l'adhésion de ces populations des zones préurbaines à la question de la transition écologique ?
Alors, effectivement, dans toutes les politiques publiques aujourd'hui, la question est justement d'éviter, justement, pour qu'on ait une dépendance trop importante à la voiture et aussi à la construction d'infrastructures de transport en commun, on est dans les SCOT, dans les schémas de cohérence territoriale et dans les PLU, des plans locaux d'urbanisme, on essaie...
Toute la planification urbaine.
Toute la planification urbaine, tout l'aménagement urbain, on essaie de proposer la densification de la ville. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que la ville, aujourd'hui, qu'il y ait au-delà des limites actuelles en 2018, eh bien qu'on ne la dépasse plus. C'est-à-dire que ça devienne, au-delà de cette zone-là, une zone non edificandi, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne va plus édifier. Alors, il n'en demeure pas moins qu'il existe des périurbains. Donc on propose aujourd'hui, par exemple, en termes de développement durable, en termes d'écologie, de densifier les lotissements. C'est-à-dire qu'on a un point important aussi, on a des populations de plus en plus âgées. On voyait très bien dans les gilets jaunes des retraités qui n'ont plus forcément les moyens de pouvoir entretenir leur patrimoine, et c'est-à-dire le lopin de terre qui est autour de leur maison. Donc on propose de densifier les lotissements. Ça se fait à l'amiable, ça se fait toujours de façon individuelle, mais on va proposer de construire un pavillon d'acheter une partie de la parcelle, une parcelle de 1000 mètres carrés, on la sépare en deux, 500 mètres carrés, on construit un pavillon. Donc ce qu'on appelle un mouvement de construction dans les lotissements. Alors c'est pas si facile que ça, mais en tout cas, ce que je veux signifier, c'est que les politiques publiques essaient justement de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette dépendance trop importante des périurbains à la voiture. Et donc là, s'il y a des zones plus densifiées, on pourra installer des infrastructures de transport en commun.
Et à partir de ce moment-là, se pose aussi une autre question qui est la création de liens de sociabilité entre toutes ces populations. Parce que dans le phénomène que vous nous décrivez, en fait, vous avez une sorte d'extension de la ville qui se fait par mitage progressif de l'espace, par des gens qui arrivent, qui sont un peu installés parce qu'on leur dit, voilà, le logement social, maintenant, il est ici, à 30 km de votre lieu précédent, etc., etc. Donc il y a une sorte de frustration un petit peu naturelle. Et en même temps, vous passez d'un grand ensemble social vers une petite maison individuelle. Donc il y a une sorte de progrès, ou en tout cas c'est vu comme étant un progrès. Mais derrière, comment se créent les liens de sociabilité entre les gens ? Parce que derrière le mouvement des Gilets jaunes, il y a aussi ce sentiment que la protestation crée sociabilité. Est-ce qu'on observe la même chose dans les espaces périurbains, dans lesquels l'individualisation a été d'une certaine manière la règle force pendant plusieurs décennies ? Vous parlez dans votre ouvrage de clubisation, vous parlez certes d'une gentrification d'un côté et d'arrivée d'un habitat social mité à l'intérieur, mais donc comment est-ce qu'on peut regrouper des gens qui sont de culture et d'attentes socio-économiques complètement différentes ? Comment on fait sociabilité dans les espaces périurbains ?
Alors, dans l'exemple que j'ai donné, effectivement, là, c'est un problème de pouvoir créer de l'urbanité, de la sociabilité entre des personnes âgées et des personnes nouvellement arrivées. Ça, c'est vraiment le problème numéro un. Ça ne se fait pas, du jour au lendemain, et c'est difficile que la greffe, la bouture prenne au niveau de la sociabilité. Ça, c'est un point.
Vous avez jeune, vieux, si vous passez l'expression. Oui. Vous avez aussi population traditionnellement blanche chrétienne de province installée, et vous avez des populations immigrées anciennes ou nouvelles. Enfin, anciennes, ça n'existe pas, mais disons des populations immigrées nouvelles qui arrivent et qu'il faut bien à un moment donné aussi loger. Vous avez de fait des éléments de différenciation culturelle, ethnique, religieuse qui vont là trouver un terrain d'opposition opposition derrière la question de la propriété.
Bien sûr, bien sûr. C'est pour cela qu'on a ce mouvement de clubisation dont vous parliez tout à l'heure et dont on parle un petit peu dans notre ouvrage, pour bien montrer que lorsque l'on accède à la propriété dans un lotissement, on accède à un club et on veut avoir les avantages de ce club. C'est-à-dire l'avantage de pouvoir vivre entre soi, un entre-soi protecteur. On a eu la possibilité de s'éloigner du logement social. Donc on est sorti de la nasse du logement social pour accéder à un lotissement de pavillon individuel. Donc là, on va créer une sociabilité de l'entre-soi et puis une sociabilité aussi environnementale qui est extrêmement importante parce qu'on veut préserver le paysage, on veut préserver l'environnement et on ne veut pas voir arriver une autre personne après, c'est-à-dire qui viendrait perturber, polluer le paysage qui est devant son pavillon.
Alors avant qu'on arrive au paysage et à la question environnementale et aux éoliennes, fait, la question c'est comment fonctionne la clubisation ? Parce qu'on voit bien Rotary, Lyon, etc. Mais ça c'est réservé à des catégories professionnelles ou économiques particulières. Comment on fait club à l'intérieur d'un lotissement ?
Eh bien, on aura par exemple dans les catégories les plus aisées, on va avoir ce mouvement d'enfermement et de ce qu'on appelle aux États-Unis
la gentrification.
Les communautés fermées.
Les gated communities.
Et donc là, on va avoir des personnes qui vont revendiquer auprès de la municipalité pour fermer l'accès à toute personne extérieure au lotissement.
Fermé physiquement, palissade, gardiennage,
voilà,
etc.
Ou si ce n'est pas une palissade, ce sera simplement une barrière qui va être ouverte avec une carte magnétique ou avec une reconnaissance de plaque ou autre, suivant le type de fermeture. Mais on a de plus en plus ce type de lotissement fermé dans le sud de la France, dans la région méditerranéenne ou dans le sud-ouest, mais dans la région dijonnaise aussi, on a de plus en plus ce type et dans certaines banlieue parisienne, du côté de Gentilly ou autre, on a ce type de communauté. C'est vrai que ça reste moins important qu'aux États-Unis, mais ça prend de plus en plus. Donc ce club, vous voyez, c'est pour vivre entre soi. C'est pour être, dans un environnement sociopolitique, homogène.
Alors ça, c'est l'espace paysager, mais de fait, ça passe par des barbecues communs, ça passe par des réunions de copropriété, de lotissement qu'on accompagne par le fait que les enfants fassent du sport ensemble ou ça passe par des pratiques culturelles type scoutisme, etc. Ensemble, c'est ce genre de choses qui existent
oui.
dans la clubisation ?
Dans la clubisation, oui. Alors, ça reste quand même, c'est une figure de style aussi, la clubisation oui. aussi, hein, bien évidemment. On reste quand même dans des lotissements où l'individualisme prime aussi. Hein. Il ne faut pas croire que tous les dimanche où on va se retrouver et que les enfants, il y a quand même... On a dans ce club la clubisation, c'est-à-dire qu'on veut préserver les avantages du club. C'est-à-dire que, par exemple, dans ces lotissements, on aura de plus grandes parcelles. Et donc, on ne veut pas voir le voisin. Donc, en fait, c'est de l'individualisme et de l'autonomisation, vous comprenez bien, dans son pavillon. Donc, préserver un club, c'est préserver des avantages aussi. Hein, les avantages paysagers, mais les avantages aussi de ne pas être trop près du voisin.
Et alors, vous disiez tout à l'heure que ces espaces qui se renferment veulent se protéger de l'arrivée de nouveaux entrants, mais veulent aussi éviter les modifications du paysage extérieur qui viendraient baisser l'estime qu'ils ont eux-mêmes du paysage dans lequel ils vivent. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on peut interpréter le refus, par exemple, de l'installation d'éoliennes qu'on peut voir dans l'ouest de la France, qu'on peut voir un petit peu dans le nord également, qu'on peut voir dans les espaces littoraux ?
Oui, effectivement, la question du paysage est une question importante, c'est-à-dire qu'on ne veut pas une perturbation de son paysage. On a choisi, on fait partie de ce club, on a acheté d'une certaine façon, on a acquis le paysage en même temps, c'est-à-dire les collines ou les terres agricoles ou les forêts qui sont devant. Et en plus de ça, on ne veut pas des éoliennes ou on ne veut pas de la ligne TGV, mais là, c'est en termes de développement durable, parce que ça va faire baisser le coût du foncier, bien évidemment, le coût de son pavillon, donc de l'immobilier également, parce que le paysage sera moins favorable.
Donc le refus des éoliennes, c'est comme le refus des TGV dans les années 80, comme le refus du chemin de fer à la fin du 19e siècle, c'est un refus de quelque chose qui va modifier le territoire, donc le prix du mètre carré, donc l'estime que j'ai de soi. Mais à terme, est-ce que c'est pas aussi, sur une ou deux générations, en fait, une perte financière également, parce que si vous n'avez pas d'arrêt de TGV à côté, votre espace est moins attractif de la même manière et vous avez toujours une dépendance vis-à-vis des mobilités individuelles, donc de la voiture.
Bien sûr, hein, on voit bien que la question... c'est une question aussi par rapport à la nouveauté aussi. Hein. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une révolution en termes énergétiques, en termes de transport, en termes de manière de vivre. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a sociologiquement, il y a l'humain, d'une façon assez générale, a tendance à prendre avec beaucoup de précautions toutes ces nouveautés, et notamment les nouveautés énergétiques.
Alors, à propos d'effets de ces nouveautés-là, vous avez toute une partie de votre ouvrage sur les dynamiques électorales qui sont à l'œuvre dans les territoires périurbains. Est-ce qu'ils sont plus conservateurs que les autres ? On aurait tendance à le croire en vous écoutant. Est-ce que l'origine, pour le coup, des individus, l'origine sociale des individus, fait qu'il peut y avoir encore des liens et une idée d'un progrès ? Est-ce qu'il y a autant, politiquement, est-ce qu'il y a autant d'espaces périurbains qu'il y a d'individus ? Ou est-ce qu'on observe des dynamiques communes ?
Alors, on observe des dynamiques peut-être variées. Il y a on a quand même une certaine... Dans les zones périurbaines éloignées, on aurait plutôt un vote extrême droite. Et c'est, voilà. Et dans les zones périurbaines...
Qui est un vote de protestation ? Qui est un vote... Enfin, ça, c'est une question aux sociologues, pour le coup. Vote de protestation, vote d'adhésion. C'est le fait qu'il y ait, pour le coup, des mobilités de plus en plus chères, le fait qu'il y ait peu de circulation en transport en commun, le fait qu'il y ait une sorte d'abandon des zones de production, donc des emplois, c'est ça qui crée ce vote d'extrême gauche ou ce vote d'extrême droite, ou c'est un où il y a d'autres raisons qui sont plus anciennes et mieux ancrées, disons.
Non, je ne pense pas qu'il y ait des raisons plus anciennes. Je pense que c'est plutôt un sentiment d'être oublié, mis à l'écart. Et les thèses d'un certain nombre de géographes,
Guluy,
ont notamment posé la question de la France périurbaine avec la France centralité, centrale,
urbaine. La France périphérique.
La France périphérique. Et aujourd'hui, je crois qu'un certain nombre, qu'ils soient de droite ou de gauche, un certain nombre d'hommes politiques qui ont récupéré cette thèse qui est une thèse relativement binaire et géographique et relativement simpliste et on n'est pas entré dans le détail parce que la France périphérique chez Christophe Guluy c'est 40 millions d'habitants et on vient de le voir, la France périurbaine c'est 15 millions dans la France métropolitaine. Donc on voit bien qu'il y a un amalgame qui est fait et donc dans les votes, il y a des votes extrêmes bien sûr, mais aussi, on a des votes qui sont très, très assez conservateurs et plutôt pour les partis du gouvernement jusqu'à présent. Quand on regarde de façon longitudinale, il n'y a pas plus de votes extrêmes dans le périurbain, sauf dans les limites proches du rural.
Donc le pré-urbain et le rural ont plutôt tendance à voter anti-État dans le sens sentiment d'abandon.
Bien sûr, bien sûr. Là, c'est clair. Les zones rurales ont tendance, et on le voit bien à travers le mouvement des maires de France, il faut quand même regarder que sur les 35 000 communes, nous en avons une très grande majorité qui sont des communes rurales. Hein. On a quand même 80% sur les 35 000 communes qui ont moins de 2 000 habitants. Donc il faut quand même...
Alors, est-ce que ces phénomènes de sentiment de relégation, de questionnement autour de la mobilité, de questionnement autour de la clubisation, on le voit ailleurs qu'en France ? Que pour l'instant, on ne parle que de la France périurbaine, mais vous faites un certain nombre d'éléments de comparaison dans votre ouvrage, notamment avec les États-Unis. On a toujours l'idée que les États-Unis font en avance ce qui va arriver à un moment donné sur l'espace européen, ce qui n'est pas toujours vrai. Mais est-ce que, pour le coup, on observe des tendances aux États-Unis qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre en France, de ce point de vue-là ?
Oui, je crois qu'à travers le mouvement des Gilets jaunes, disons, la suspicion vis-à-vis des taxes, vis-à-vis de l'impôt, les Américains, et notamment les personnes qui résident dans les gated communities, veulent s'échapper de l'État. Ils veulent devenir indépendants. Hein, on a un mouvement d'indépendance et de rejet de l'État qui est assez fort aux États-Unis. Et je crois qu'on a ce mouvement qui apparaît subrepticement en France, je crois.
Est-ce qu'on l'observe en Allemagne ? Est-ce qu'on l'observe en Italie ? Est-ce qu'on l'observe dans d'autres pays européens ?
Peut-être en Italie. Certainement pas en Allemagne, peut-être dans certains Länder, mais pas encore de façon générale. Mais aux États-Unis, ce n'est pas nouveau. Depuis les années 60, on voit une certaine défiance vis-à-vis de l'État. Et ça, on le voit à travers les dernières enquêtes qui ont été faites par le Savipov, etc., sur la défiance des Français vis-à-vis des taxes. Et ça, et pourtant, les personnes qui sont les plus défiantes sont celles qui ont plus recours à aux aides sociales.
Donc il y a un paradoxe qui fait que ceux qui sont le plus dépendants de l'État sont aussi ceux qui se méfient le plus de l'État,
bien sûr,
vis-à-vis de ceux qui sont vus comme étant décideurs centraux, l'Union européenne en premier.
Bien sûr, c'est ce que l'on voit aujourd'hui, c'est assez paradoxal.
Et ce paradoxe, pour le coup, est-ce que vous le voyez s'incarner dans des territoires qui vont se renfermer, vous l'avez dit tout à l'heure, avec les gated communities, mais est-ce qu'on observe des espaces qui se renferment avec des gens qui sont de milieux économiques moins favorisés ? Parce que la gated community, c'est pour les gens riches.
Oui. Alors, c'est pas si évident que ça. Parce qu'on voit de plus en plus aussi une certaine désillusion vis-à-vis du pavillon et vis-à-vis des personnes qui résident dans les zones rurales. Aujourd'hui, on voit que, eh bien, ça coûte cher en termes de transport, ça prend du temps. Et donc, on se dit, le rêve pavillonnaire, il y a une certaine désillusion vis-à-vis du rêve pavillonnaire.
Eh bien, nous vivons effectivement, et politiquement, et économiquement, les désillusions autour de ce rêve pavillonnaire. Merci beaucoup, Jean-Marc Stébé, de vos explications. Je renvoie nos auditeurs à votre La France périurbaine dans la collection Que sais-je des Puffs. À tous, à la semaine prochaine. Encore une fois, très belle année à chacun. Et comme le dit le grand Philippe Meyer, que le ciel vous tienne en joie.